Bonjour à toutes et à tous, bon réveil et bienvenue sur RCJ en ce vendredi 20 mars 2026, 21e jour de guerre en Israël et de l'opération Rugissement du Lion, il est 8h.
La matinale info, Elsa Parienté.
Au programme de cette édition, la ville la plus touchée par la guerre en Israël. Les détails avec notre correspondante sur place, Emmanuel Haddad. Puis à 2 jours du second tour des élections municipales, notre invité Benjamin Haddad, ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé de l'Europe, et colistier de Rachida Dati sur la liste Changer Paris. Et enfin, tour d'horizon des villes à enjeu pour ce second tour avec notre éditorialiste politique Mickaël Darmon. Dernier développement de l'actualité au Moyen-Orient, tout de suite sur RCJ.
Le journal.
Plusieurs alertes à nouveau cette nuit dans le nord d'Israël, à Jérusalem 4 fois en 1 heure, mais aussi dans l'enveloppe de Gaza à Kiryat Atta. Sur le lieu d'un impact, un cratère s'est formé dans la cour d'un établissement scolaire. Aucun blessé n'est à déplorer, mais des véhicules ont été endommagés. Les chemins de fer israéliens ont signalé par ailleurs qu'à la suite d'une frappe iranienne, des éclats d'obus ont atteint un de leurs sites opérationnels dans le nord du pays. La compagnie ferroviaire a indiqué qu'un petit incendie s'était déclaré sur le site avant d'être rapidement maîtrisé et qu'il n'y avait aucune victime. Après les tirs survenus dans le nord du pays notamment, et suite à une série inhabituelle de lancements de missiles à travers le territoire, le porte-parole de Tsahal a annoncé que l'armée israélienne avait lancé une nouvelle vague de frappes visant les infrastructures du régime iranien à Téhéran. Auparavant, les sirènes qui avaient retenti dans de nombreuses localités du nord sans qu'aucun avertissement préalable n'ait été donné. 20 jours plus tard, je peux vous annoncer que l'Iran est désormais incapable d'enrichir de l'uranium et de produire des missiles balistiques. C'est ce qu'a annoncé hier soir Benjamin Netanyahou. Le premier ministre israélien a par ailleurs déclaré qu'Israël avait agi seul contre le gisement gazier iranien de Sospars. Israël qui a agi seul contre ce complexe. Le président américain a demandé d'éviter de nouvelles frappes et nous respectons cette consigne, a affirmé Benjamin Netanyahou. Attaque de missiles et de drones iraniens dans toute la région à nouveau et à Dubaï. Les systèmes de défense aérienne ont été activés et ont intercepté une menace au-dessus de la ville, tandis que les habitants célébraient l'Aïd, marquant la fin du mois de Ramadan. À Bahreïn, le ministre de l'Intérieur a indiqué que les sirènes d'alerte avaient retenti dans tout le pays et le ministre saoudien de la Défense a annoncé que l'armée avait intercepté un drone dans l'est du pays. Le ministre de l'Énergie du Qatar a déclaré que les attaques contre les installations énergétiques allaient réduire la capacité d'exportation de gaz naturel liquéfié de 17%, entraînant des pertes estimées à 20 milliards de dollars dans les recettes annuelles. Les autorités des Émirats arabes unis ont annoncé l'arrestation de membres d'un réseau terroriste dirigé et financé par le Hezbollah et l'Iran, un réseau impliqué dans le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et des menaces à la sécurité nationale. Emmanuel Macron a évoqué la possibilité de créer un cadre onusien pour la sécurité future de la navigation dans le détroit d'Ormuz. Que les combats en Iran seront terminés face aux critiques du président américain Donald Trump à l'égard des pays de l'OTAN. Le président de la République a estimé que cette initiative pourrait être utile et a révélé en avoir discuté avec le secrétaire général de l'ONU, le premier ministre indien et d'autres dirigeants européens. Nous avons entamé une phase de prise de contact et nous verrons dans les prochains jours si elle a des chances d'aboutir, a-t-il ajouté. Le chef de l'État libanais estime que l'essentiel est de mettre un terme à l'escalade entre Israël et le Hezbollah, soulignant la nécessité d'un cessez-le-feu et rappelant son initiative proposant des négociations directes avec Israël. À Bruxelles, à l'issue d'un sommet européen, le président Emmanuel Macron a déclaré que la tenue d'éventuelles négociations directes entre Israël et le Liban dépendait d'un feu vert israélien. Le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, doit se rendre ce jour en Israël. h 4, RCJ, restez avec nous, on se retrouve dans un instant et on sera en direct d'Israël avec notre correspondante sur place, Emmanuel Haddad. RCJ.
En Israël, des millions d'Israéliens vivent aujourd'hui au rythme des sirènes et des abris. Dans l'urgence, le FSJU agit aux côtés de l'ONG israélienne La Tête, acteur majeur de l'aide humanitaire dans le pays. Il faut renforcer la distribution de colis alimentaires et soutenir les personnes les plus vulnérables. La Tête et le FSJU peuvent le faire grâce à une logistique déployée dans les abris en coordination avec les autorités civiles. Pour poursuivre et intensifier ces actions, nous avons besoin de vous. Soutenez le fonds d'urgence FSJU La la tête. Faites un don dès maintenant sur israel.fsju.org.
Le cancer colorectal touche plus de 47 000 femmes et hommes par an en France, souvent après 50 ans.
Entre 50 et 74 ans, le dépistage, c'est le meilleur moyen de s'assurer qu'il n'y a rien ou de traiter un cancer colorectal à un stade précoce. Alors, dès 50 ans, faites le test de dépistage tous les 2 ans. Vous vous en remercierez.
Pour vous procurer le test, vous pouvez le commander en ligne ou le demander à votre médecin, pharmacien ou infirmier.
Plus d'infos sur jefaismondépistage.cancer.fr avec l'Institut National du Cancer.
8h06 sur RCJ, on prend la direction d'Israël pour retrouver notre correspondante sur place, Emmanuel Ada. Emmanuel, bonjour.
Bonjour Elsa, bonjour à tous les auditeurs.
Et on commence après désormais près de 3 semaines de guerre par cette statistique, ces chiffres. Et quelle est, Emmanuel, la ville la plus touchée en Israël ?
Alors, depuis le début de la guerre, le Fonds d'indemnisation des dommages de guerre a enregistré sur tout le pays 12 845 dossiers. Sans surprise, Elsa, Tel Aviv arrive en tête des villes les plus touchées par les bombardements avec 6 543 demandes déposées. Alors, dans la liste des dommages causés par les bombardements, la majorité concerne des bâtiments suivis des dégâts aux véhicules. Alors, Tel Aviv donc est en tête de liste. Ensuite, c'est Ashkelon, Akko, Tibériade, Jérusalem et Eilat. Plus de 60 équipes sont mobilisées et déployées sur le terrain à travers tout le pays et face à l'afflux de dossiers, le fonds essaie de traiter le plus vite possible les dossiers, mais cela peut prendre de longs mois, voire des années. Après la destruction des kibboutz du sud du pays le 7 octobre et les villes du nord qui ont déjà été terriblement endommagées comme Kiryat Shmona ou Metula, ce sont maintenant des villes du centre du pays comme Tel Aviv, Ramat Gan ou Petah Tikva qui sont les cibles des missiles iraniens. Pour les réparations de Tel Aviv, pour les réparations d'infrastructures, cela prendra à peu près 6 mois après la fin des hostilités. Les villes du centre n'ont pas été détruites au sens structurel global, mais elles ont subi des dégâts localisés très précis. Alors bien sûr que les vidéos de nos ennemis qui tournent sur les réseaux sociaux montrent la ville de Tel Aviv complètement anéantie. Ce sont des fake news. Le nombre de dossiers de demande d'indemnisation, de reconstruction sont importants, mais il ne s'agit absolument pas de destruction massive. Pour le nord du pays, la situation est plus difficile. La réhabilitation des villes du Nord ne pourra commencer qu'après une sécurisation totale de la frontière et les experts prévoient de 18 à 24 mois pour remettre en état les réseaux électriques, les routes et les habitations lourdement touchées par les missiles et les roquettes lourdes. Mais tant que les roquettes du Hezbollah et les menaces d'incursion persistent, la reconstruction est freinée. Un plan de 15 milliards de shekels a été voté pour revitaliser le Nord d'ici 2030. Les villes du Sud, dans le pourtour de Gaza, la reconstruction est déjà en cours. Le budget alloué est d'environ 17 milliards de shekels et la complète reconstruction se fera dans un délai de 2 à 5 ans. Le coût total de la reconstruction pour Israël du nord au sud est estimé à plus de 25 milliards de dollars. Si les bâtiments peuvent être reconstruits en quelques années, le vrai défi restera humain. Après cette guerre longue et douloureuse, il faudra penser à reconstruire aussi la société israélienne, car ses habitants ont été profondément touchés et blessés depuis le 7 octobre.
Et à présent, cette information surprenante, Emmanuel, les émirs de Dubaï qui disent vouloir étudier le judaïsme.
Alors, vous avez entendu parler de l'engouement des Coréens par l'étude du Talmud. Ils pensent que la clé de la réussite scolaire réside dans les approches juives de l'éducation et ils ont créé des dizaines d'institutions basées sur l'étude des textes juifs. Eh bien, aujourd'hui, à notre grande surprise, il s'agit des autorités religieuses de Dubaï et d'Abu Dhabi qui ont eu dernièrement entre les mains un livre qui vient de sortir, le livre d'un grand rav de la célèbre yeshiva Merkaz Harav de Jérusalem, qui était la yeshiva du Rav Kook. Il s'agit du rabbin Yosef Rimon qui a publié un livre qui s'appelle Megillat HaTekouma, la Megillah de la Renaissance. Et ce livre est consacré à l'analyse spirituelle de la guerre en cours et elle aurait suscité un vif intérêt dans les pays du Golfe. Le rabbin a donc été contacté par les responsables sécuritaires israéliens pour l'informer que son livre était parvenu jusqu'à Dubaï et à Abu Dhabi et que les chers auraient exprimé le souhait de recevoir un enseignement portant sur la dimension religieuse du conflit et sur le rôle de Dieu dans ce qu'on appelle aujourd'hui, donc depuis plus de 2 ans, la guerre de renaissance. Selon le rabbin, toujours, cette initiative donc aurait été encouragée par les autorités israéliennes qui y voient un levier d'influence. Une délégation de rabbins se sont donc rendus dans le Golfe avec le Rav Ramon pour les rencontrer et leur expliquer ce que le Rav Ramon a voulu exprimer dans son livre, c'est-à-dire voir la guerre actuelle à travers le prisme de la Torah. Le Rav Ramon a délivré un message spirituel à l'occasion de Pessah, évoquant une période qu'il a qualifiée d'exceptionnelle.
Merci beaucoup Emmanuel Ada, on vous retrouve la semaine prochaine sur RCJ. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom à tous.
8h11 sur RCJ, restez avec nous, on se retrouve dans un instant et comme chaque matin de cet entre-deux-tours, le point sur cette fin de campagne désormais, ce sera avec notre éditorialiste politique, Michael Darmon.
Israël est sous le feu des missiles. À chaque alerte, une vie peut basculer. Jour et nuit, les équipes du Magen David Adom interviennent sans relâche. Ambulances, secouristes, banques du sang. Sous les sirènes, ils sauvent des vies. Aujourd'hui, ils ont besoin de vous. Votre don permet d'équiper, d'intervenir, de protéger. Face aux missiles, chaque seconde compte. Face à l'urgence, chaque don sauve. Faites un geste maintenant sur mda-france.org. MDA.
MDA France.
Association au service de la vie.
Vous avez plus de 60 ans et résidez sur Paris-Île-de-France, vous vous sentez seul ou vous connaissez un proche dans cette situation. Partage, le programme de lien social du FSJU, soutenu par la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Nos bénévoles sont à votre écoute et à vos côtés pour des appels et des visites de convivialité. Véritable soutien pour les aidants, nous participons à améliorer le quotidien de vos proches. Contactez-nous dès à présent au 01 42 17 11 29. 01 42 17 11 29.
8h12 sur RCJ, comme chaque matin cette semaine, le point sur cette campagne d'entre-deux-tours avec vous, Michael Darmon, éditorialiste politique pour RCJ. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Et surtout, ce qui ressort dans un premier temps de cette campagne d'entre-deux-tours, ces alliances, bien sûr, entre le PS et la France insoumise. On aurait pu s'y attendre, mais c'est vrai que, par exemple, sur des villes comme Toulouse, ça a pris une importance dans le débat national quand même assez forte.
Oui, et au fond, ce qu'on va aussi retirer finalement de cet entre-deux-tours, c'est la capacité qu'a eue immédiatement, dès le soir, dimanche soir dernier, la France insoumise, de capter le narratif, d'annoncer comme étant un grand événement l'entrée en force de la France insoumise dans le jeu municipal et que tout allait basculer. Or, la réalité, c'est que d'abord, 93% des maires ont été élus au premier tour dimanche dernier. Il ne reste que 1300 villes qui doivent élire leur maire donc dimanche, et que dans les grandes villes, eh bien, le Parti socialiste est en tête en réalité. Et de ce point de vue-là, effectivement, il y a eu ensuite des tentatives et des alliances dans d'autres villes pour réussir à renverser la donne vis-à-vis du candidat de la droite. Je pense notamment à Toulouse, où cette alliance se fait entre le PS et LFI pour pouvoir quand même tenter de prendre la ville face à un maire qui a l'air quand même de résister. Et donc la réalité, elle est plutôt celle-là. Elle est quand même, il y a eu on voit bien à Paris, à Marseille, une résistance quand même du Parti socialiste, en tout cas des élus socialistes, vis-à-vis des coups de boutoir de LFI. Il n'empêche que à la fin de cette élection municipale, il y aura un PS écartelé, on le voit déjà, entre ceux qui veulent des alliances, ceux qui ne veulent pas d'alliance avec LFI, et ça donnera la matrice, on va dire, et la tension dans la préparation de l'élection présidentielle. Maintenant, effectivement, il y a des villes que l'on va devoir surveiller parce qu'il y a un suspense important pour dimanche soir.
Et de l'autre côté, Michael, sur la droite, on peut dire globalement que quand même la droite a résisté aux sirènes d'appel de l'extrême droite.
Alors, d'une manière générale, là aussi, souvenons-nous, dimanche dernier, Jordan Bardella, président du RN, prend la parole le premier, tend la main à la droite. Il n'a pas eu beaucoup de réponses. En revanche, On voit et on verra dimanche soir, notamment à Nice et à Paris, dans quelle mesure l'influence des électeurs ou le choix d'électeurs du RN pourrait se porter, ou de Reconquête, notamment sur Paris, pourrait donc donner un réservoir de voix et un coup de pouce aux candidats de la droite. Ça, ce sera le grand suspense qui, effectivement, notamment sur Paris, qui est en cours, puisque depuis le retrait de Sarah Gnafaud, les cartes sont rebattues. Et la tension, on voit bien d'ailleurs la manière dont la campagne s'est emballée dans ces derniers jours autour de la capitale, à quel point ça va se terminer très certainement au finish, parce que des deux côtés, du côté d'Emmanuel Grégoire et du côté de Rachida Dati, on appelle au vote utile. On va surveiller également, donc on l'a dit, outre Paris, Nice et Toulouse, on va surveiller également Bordeaux, où il y a le maire donc écologiste qui pourrait perdre la ville face à un macroniste donc Cazenave. Un autre macroniste pourrait également emporter la ville d'Annecy, et cela permettrait d'avoir quelques, je dirais, maigres consolations vis-à-vis du parti, de l'expérience du parti présidentiel qui est assez peu présent. Quant au RN, eh bien, le suspense sera sur Toulon pour savoir si, effectivement, Laure Lavalette peut emporter cette ville, alors qu'elle fait face aussi à un front républicano-toulonnais de toutes les forces politiques pour l'empêcher d'accéder à la mairie. Tous ces résultats, bien sûr, on les connaîtra dimanche soir au fur et à mesure de la soirée, et dès lundi matin, on sera en mesure de pouvoir tirer les premiers enseignements et voir dans quelle mesure l'immédiate préparation de l'élection présidentielle va démarrer.
Cette élection, justement, et ce marqueur, évidemment, on attend les résultats de dimanche, mais a priori, ce ne sont donc pas les extrêmes qui prennent le pas, qui arrivent, vous le dites, à changer le narratif. Toutefois, est-ce qu'on peut considérer ça comme un indicateur aussi pour 2027 sur la capacité des forces républicaines à tenir?
Oui, les extrêmes, en fait, jouent un rôle de pression sur les partis républicains. C'est ça que l'on constate énormément, et en particulier on le voit avec le Parti socialiste et avec son réalisme électoral, puisque la démarche très incantatoire d'un Olivier Faure, qui a un double langage assumé en disant pas d'accord national, laissant évidemment la porte ouverte aux accords locaux que l'on a vu en grand nombre, et qui pourraient imprimer leur résultats, notamment à Avignon, notamment à Limoges, permettent de faire émerger un LFisme municipal pour la première fois, qui d'abord sera un test de crédibilité pour les insoumis, pour savoir s'ils sont capables de changer la vie des gens autrement que par le bruit et la fureur, et d'autre part va donner également sa marque sur la manière dont le choix de la candidature à gauche va pouvoir se déterminer. On voit bien que cette espèce de cet imaginaire ou ce souhait, ce fantasme électoral de l'union de la gauche peut déterminer la manière dont les candidatures vont se déterminer dans cette partie de l'échiquier politique, et idem du côté de la droite. Donc si les extrêmes ne sont pas leaders, elles ont une influence normative qui très certainement donnera son empreinte dans quelques mois.
Merci beaucoup, Mickaël Darmon, éditorialiste politique sur RCJ. On suivra bien sûr le débrief de ces résultats lundi midi avec vous, 8h18, 8h19 sur RCJ. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant pour la suite de cette édition. RCJ.
En Israël, des millions d'Israéliens vivent aujourd'hui au rythme des sirènes et des abris. Dans l'urgence, le FSJU agit aux côtés de l'ONG israélienne Latet, acteur majeur de l'aide humanitaire dans le pays. Il faut renforcer la distribution de colis alimentaires et soutenir les personnes les plus vulnérables. Latet et le FSJU peuvent le faire grâce à une logistique déployée dans les abris en coordination avec les autorités civiles. Pour poursuivre et intensifier ces actions, nous avons besoin de vous. Soutenez le fonds d'urgence FSJU La tête. Faites un don dès maintenant sur israel.fsju.org.
Bonjour, c'est Sandrine Seban. Retrouvez-moi dans mon émission Essentielle le 23 mars à 11h. Mon invité sera Émilie Fraîche pour son dernier livre, Un séisme, aux éditions Albin Michel sur RCJ.
Bonjour, c'est Marc Velinsky. Je vous retrouve un vendredi sur deux, de 12h à 13h, pour l'Air du Temps. Une série de débats en live sur les questions, les peurs et les espérances de notre société. L'Air du Temps, c'est vendredi à 12h, en direct sur RCJ.
Bonjour, c'est Jérôme Attal. Je vous donne rendez-vous tous les jours dans RCJ Midi, du lundi au jeudi et le vendredi dans la matinale info pour découvrir l'éphémérie des événements les plus marquants de l'histoire du peuple juif. Retrouvez mes podcasts sur le site RCJ et votre plateforme préférée.
Vous avez plus de 60 ans et résidez sur Paris-Île-de-France, vous vous sentez seul ou vous connaissez un proche dans cette situation? Partage le programme de lien social du FSJU, soutenu par la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Nos bénévoles sont à votre écoute et à vos côtés pour des appels et des visites de convivialité. Véritable soutien pour les aidants, nous participons à améliorer le quotidien de vos proches. Contactez-nous dès à présent au 01 42 17 11 29. 01 42 17 11 29.
Vous aimez les livres, les mots, les histoires? Alors je vous donne rendez-vous chaque mardi pour écouter mon émission Postface et découvrir des écrivains, des écrivaines qui viendront parler de leurs livres avec passion.
Je suis William Serbib, je vous donne rendez-vous un lundi sur deux à 23h sur RCJ pour parler musique dans mon émission Blues.
Bonjour, c'est Chantal Hasdey. Retrouvez notre émission judéo-espagnole Camino Sefarad de notre association Vidas Largas sur RCJ, un jeudi sur deux à 23h. À très bientôt.
Bonjour, c'est Sandrine Seban, je vous retrouve dans Essentiel.
Gilbert Montagnier, bonjour.
Bonjour ma Sandrine.
Le magazine culture de RCJ, écrivain, chanteur, comédien.
Le maître, le génie, Michel Jonas, bonjour.
Pas exagéré, bonjour Sandrine.
Vous donne rendez-vous les lundis et mercredis de 11h à midi. À très vite.
Merci, merci Sandrine, merci à tous.
8h22 sur RCJ, on revient sur une date marquante de l'histoire juive avec Jérôme Attal.
L'histoire du jour, Jérôme Attal.
Le 20 mars 1144 marque un tournant tragique dans l'histoire du peuple juif. À Norwich, en Angleterre, le corps sans vie de Guillaume est découvert, un apprenti tanneur âgé de 12 ans. Cet événement va marquer l'origine de la première accusation de meurtre rituel de l'histoire contre la communauté juive en Europe médiévale. Au XIIe siècle, les communautés juives d'Europe étaient souvent perçues avec méfiance par la majorité chrétienne. Guillaume avait disparu quelques jours auparavant, suscitant l'inquiétude de sa famille et de ses proches. Quelques jours plus tard, son corps fut retrouvé dans la forêt de Thorpe, près de Norwich, présentant des marques de violence. Rapidement, des rumeurs commencèrent à circuler, accusant les juifs locaux d'avoir perpétré ce meurtre dans le cadre d'un rituel religieux. Ces accusations furent en grande partie alimentées par Thomas de Monmouth, un moine bénédictin de la cathédrale de Norwich. Dans son ouvrage intitulé « La vie et la passion de Saint Guillaume de Norwich », le moine relate en détail les circonstances de la mort de l'enfant et les supposés aveux obtenus de la part de Juifs. Il décrit également des miracles attribués à Guillaume après sa mort, renforçant ainsi son statut de martyr et justifiant sa canonisation. L'impact de cette affaire sur la communauté juive de Norwich fut considérable. Les Juifs ont été persécutés. Cette accusation de meurtre rituel qui, comme les autres, bien que sans fondement, résonna dans d'autres régions d'Europe. J'ai dénombré 123 accusations de meurtre rituel de 1144 à 1946 en Pologne pour la dernière, qui déclencha le pogrom de Kielce. Aujourd'hui, les historiens s'accordent à dire que les accusations portées contre la communauté juive de Norwich étaient infondées et reposaient sur des préjugés profondément enracinés. Néanmoins, cette affaire demeure un exemple édifiant des causes de la méconnaissance. C'était le 20 mars 1144.
Merci beaucoup, Jérôme Attal. 8h24 sur RCJ, l'invité de cette édition, Benjamin Haddad, ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé de l'Europe. Et vous venez aujourd'hui en tant que colistier de Rachida Dati sur la liste Changer Paris. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être notre invité ce matin sur RCJ. Si on en croit le dernier sondage IFOP fiducial pour Studio Radio et Paris Match, la liste de la majorité municipale conduite par Emmanuel Grégoire arriverait en tête ce dimanche avec 46% des intentions de vote. Rachida Dati qui atteindrait 44%. Une grande d'incertitude. C'est ce qui se dessine pour l'instant et malgré le désistement de Sarah Knafo, malgré le ralliement en se retirant lui-même de Pierre-Yves Bournazel, ça reste très tendu pour vous ces dernières heures de campagne.
Ah bah, on le savait depuis le début, ce sera une élection qui sera très serrée. Et c'est pour ça qu'aucune voix ne doit manquer à Rachida Dati et sa liste si on veut l'alternance à Paris. Il y a une majorité de Parisiens au premier tour qui ont voté pour un changement pour l'alternance à Paris après 25 ans de socialisme, après deux mandats d'Anne Hidalgo. Est-ce qu'on veut la suite de cette politique qui a fait plonger la ville dans l'insécurité, qui a fait sortir 150 000 logements du parc locatif sur les 20 dernières années, qui fait fuir des Parisiens, 10 000 Parisiens, notamment de la classe moyenne, des familles qui partent tous les ans parce que c'est trop compliqué de vivre, de se loger, de travailler à Paris. Nous, on veut remettre de l'ordre, on veut réserver le logement social pour ceux qui travaillent, les soignants, les enseignants, les forces de l'ordre. On veut remettre de la propreté dans cette ville. Et donc, là, moi, je dis, donnez-nous une chance. On a fait une très belle campagne sur le terrain. On va continuer jusqu'à ce soir. Il y a encore une fois, c'est une fenêtre de tir, une opportunité pour l'alternance qu'il ne faut pas rater dimanche 22 mars.
Votre cible, ce sont les électeurs de Pierre-Yves Bournazel. À défaut que lui vous réaffirme un soutien ces derniers jours, c'est Édouard Philippe qui l'a fait hier dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux qui a affirmé son soutien à Rachida Dati. On voit les révélations de Libération hier, toutes les déclarations de Pierre-Yves Bournazel tout au long de cette campagne sur Rachida Dati. Je cite « Ce serait fou, irresponsable de confier les clés de Paris à Rachida Dati. Elle incarne tout ce que j'exècre. Vous pouvez vous réunir là à la fois. » Donc les colistiers, oui, mais les électeurs aussi. Ils peuvent se réunir.
Vous savez, moi, j'ai toujours eu comme habitude de jamais commenter les rumeurs de presse et les on-dit. Et d'ailleurs, j'ai souvent moi-même parfois été cité dans des choses qui étaient complètement fausses. Donc, vous savez, je sais comment ça marche, en particulier quand on est en campagne électorale. Hier, j'ai entendu M. Grégoire, qui est probablement un peu fébrile après un débat complètement raté la veille, qui allait raconter que c'était le président de la République qui était intervenu en personne pour faire sortir Sarah Knafo. Tout ça est absolument grotesque et montre une forme de panique, je pense, dans les derniers jours de la campagne. Et ce qui montre encore une fois qu'il voit bien que les Parisiens veulent l'alternance et qu'on est à deux doigts peut-être de l'emporter dimanche. Maintenant, moi ce que je vois, c'est que moi je suis issu de Renaissance. On a aujourd'hui sur cette liste des gens qui viennent d'Horizon, du Modem, d'LR, de l'UDI, de la société civile, qui se sont réunis, qui se sont rassemblés précisément pour gagner à Paris. Et qui viennent chacun avec leur histoire, leur sensibilité différente. Et c'est vrai que Pierre-Yves Bournazel fait une très belle campagne de fond. Il a beaucoup porté la question de la transition environnementale. Il s'est beaucoup battu aussi sur la question du périscolaire, parce qu'on sort aujourd'hui d'un scandale sexuel majeur dans lequel la mairie de Paris a une responsabilité directe. Et Emmanuel Grégoire en particulier, puisqu'il était adjoint en charge des ressources humaines, c'est-à-dire chargé de recruter les animateurs dont des centaines ont été aujourd'hui suspendus. Donc, on a cette liste d'union, on a un projet de transformation, on a des élus qui sont expérimentés, beaucoup qui ont été conseillers de Paris, maires, dans le 16e arrondissement, je suis colistier de Jérémy Redler, qui est un maire qui a été réélu au premier tour. Donc, on a une équipe d'expérience, on a une équipe talentueuse. Et maintenant, moi, ce que je répète une fois de plus, c'est que si les Parisiens veulent changer, si les Parisiens ne veulent pas de cette équipe à nouveau, qui agrémentée d'ailleurs de membres de la France Insoumise comme Daniel Simonet, de membres de la Jeune
Justement,
Garde,
c'est Emmanuel dimanche Grégoire, 22 mars, c'est l'opportunité. Il a quand même été toujours assez clair sur la rupture avec la France Insoumise, la candidature de Sophia Chikirou qui reste sur le côté. Vous ne lui reconnaissez pas de clarté, par exemple, sur la question de l'antisémitisme?
Moi, le problème, c'est qu'on ne peut pas être clair à moitié. On ne peut pas être clair de façon tactique. Il a parfois effectivement été très clair, mais il a aussi Daniel Simonet sur sa liste. Daniel Simonet, quand elle s'est présentée aux élections législatives en 2022 à Paris, elle a fait venir Jeremy Corbyn, qui, on le sait, était le dirigeant du Labour, qui avait une très grande complaisance avec l'antisémitisme dans ses rangs quand il était au Royaume-Uni. On a des gens qui viennent d'Urgence Palestine, on a des gens qui ont été proches de la Jeune Garde sur cette liste. Et Emmanuel Grégoire, il ne faut quand même pas l'oublier, en 2024, pour être élu à l'Assemblée nationale, il est sous les couleurs du Nouveau Front Populaire. Donc, il a été NFP avec la France Insoumise, et puis maintenant, il ne l'est plus, peut-être parce que ça ne l'arrange pas d'un point de vue électoral. Moi, je me rappelle, initialement, il était co-signataire de la proposition de loi de Caroline Yadan pour reconnaître la haine d'Israël, les appels à la destruction d'Israël, comme de l'antisémitisme, et puis, subrepticement, il s'en est retiré, et aujourd'hui, c'est une proposition de loi qu'il dénonce. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de comportements tactiques dans le comportement d'Emmanuel Grégoire. Rachida Dati, sur ces sujets-là, elle a été intransigeante. Quand elle a été ministre de la Culture, elle s'est toujours élevée contre toutes les formes de boycott d'Israël. Que ce soit à la Philharmonie de Paris, que ce soit au musée d'art et d'histoire du judaïsme, elle a toujours été présente pour dire que le boycott, c'est de l'antisémitisme, et pour continuer à promouvoir le dialogue et l'universalisme républicain.
Vous l'avez dit, vous êtes issu de Renaissance, vous faites partie de ceux qui vous êtes alliés très tôt à Rachida Dati. Aujourd'hui, si demain, en tout cas si dimanche, Rachida Dati n'est pas élue maire de Paris, vous siégerez tous ensemble, LR, Renaissance, Modem, Horizon. Cette alliance, elle tient, et peut-être aussi sur le plus long terme. Aujourd'hui, le socle commun, ça reste macroniste et républicain.
Ah, mais moi, je crois que vous posez vraiment la question fondamentale sur le plus long terme, parce qu'évidemment qu'après les municipales, on va rentrer assez rapidement dans la pré-campagne des présidentielles. Et on n'a jamais eu une extrême droite et une extrême gauche aussi forte. Et ce qu'on voit à gauche notamment, c'est une fois de plus la trahison des valeurs par le Parti Socialiste qui, dès qu'il est en difficulté, se précipite pour aller se réallier avec M. Mélenchon, alors que quelques semaines à peine auparavant, on dénonçait ces jeux de mots antisémites sur Epstein ou sur Raphaël Glucksmann. Bon, la seule façon pour le camp républicain, réformateur, pro-européen de l'emporter, c'est l'union. Moi, j'ai toujours été partisan de l'union. J'ai été élu en 2022. Déjà, à l'époque, je pensais qu'il fallait qu'on travaille avec les Républicains. Je suis rentré au gouvernement dans un gouvernement de socle commun, à l'époque sous Michel Barnier, avec le Centre, Renaissance, Horizon, le Modem et les Républicains. Nous avons chacun de sensibilité, mais si on veut remettre de l'ordre et de l'autorité dans le pays, si on veut continuer à le réformer en profondeur, avoir une politique de l'offre, avoir une politique de soutien au travail, oui, moi, je suis favorable à ce qu'on continue à travailler ensemble et à ce qu'on travaille à un processus pour avoir un candidat à l'élection présidentielle. Je ne sais pas si ça doit prendre la forme d'une primaire, si ça doit prendre la forme d'un accord entre candidats. Au fond, le procédé n'est pas important, mais la division, et on l'a vu à Paris et on le voit dans d'autres villes de France, la division, c'est la recette pour la défaite et pour faire monter les extrêmes.
Au-delà du symbole, après 25 années durant lesquelles la gauche a dirigé Paris, concrètement, qu'est-ce que ça change pour les Parisiennes et les Parisiens de voter Rachida Dati dimanche?
Alors, prenons quelques axes importants du programme. La sécurité. La sécurité, aujourd'hui, contrairement à ce que raconte M. Grégoire qui veut se défausser de ses responsabilités, le maire de Paris, il a quand même pas mal de prérogatives. Il y a la police municipale. Nous, on va embaucher 5000 policiers municipaux en plus, et ils seront armés, équipés. Et on va doubler à 8000 le nombre de vidéos de caméras de surveillance dans Paris, avec notamment un effort qui sera fait sur les bois. Moi, dans ma circonscription, j'ai le bois de Boulogne, dans la bois de Vincennes, où on aura des équipes de sécurité dédiées, en particulier la nuit, pour que les familles, les femmes seules, tout ce monde puisse se promener, faire du sport dans les bois en toute sécurité. Après, mettre l'accent sur la propreté, parce qu'à un moment, le rayonnement d'une ville, la fierté d'une ville, c'est aussi la propreté de ses rues. Donc, on va faire appel à des prestataires privés pour pouvoir faire le ramassage des ordures, et ce qui libérera aussi beaucoup de temps pour les équipes actuelles pour pouvoir faire la propreté des rues. Ça, c'est un axe qui est absolument fondamental. Sur le logement. Sur le logement, on a besoin d'un choc d'offres. Je le disais tout à l'heure, on a 150 000 logements qui sont sortis du parc locatif privé depuis 25 ans. Pourquoi fondamentalement? Mais parce que quand la mairie de Paris dépense 250 millions d'euros par an pour faire de la préemption, sortir des biens de la location et en faire du logement social, fondamentalement, vous n'avez plus aucune incitation, en réalité, à aller mettre votre appartement sur le marché. Nous, ce qu'on va faire, c'est dire, on arrête les préemptions, on va mettre 100 millions par an, on sauve pas mal d'argent, mais on va mettre 100 millions par an pour faire de la rénovation thermique. On a un parc social à Paris, qui est en moyenne deux fois plus âgé que dans le reste de la France, qui est très vétuste, qui avec des risques de passoires thermiques. Donc c'est à la fois un enjeu social, c'est un enjeu aussi écologique, bien évidemment. Donc on va mettre 100 millions pour la rénovation thermique des logements. On va réserver le logement social à ceux qui viennent travailler à Paris pour les Parisiens et les Parisiennes. Je pense notamment aux enseignants, aux soignants, aux forces de l'ordre. Vous savez, moi, dans ma circonscription, j'ai un hôpital, l'hôpital Sainte-Périne. Quand je vais parler aux soignantes, aux infirmières qui travaillent à l'hôpital, mais parfois elles font une heure et demie de trajet pour pouvoir venir travailler. Si on pouvait avoir le moyen de les loger à des prix abordables dans les alentours, évidemment, ce serait dans l'intérêt de tous. On a trois arrondissements parisiens aujourd'hui qui sont des déserts médicaux. Donc ça, je dirais, sont vraiment des axes de transformation.
Axes,
évidemment, l'attractivité économique, le soutien aux familles et bien sûr le fait de répondre dès le premier jour avec un conseil de Paris extraordinaire au scandale du périscolaire, déjà en faisant la transparence sur ce qui s'est passé avec les familles qui ont le droit de savoir pourquoi les animateurs ont été suspendus, ont le droit de savoir à qui ils laissent leurs enfants, avec un principe très simple qu'on va appliquer dès le premier jour, plus un enfant seul avec un animateur. Et puis après, on va restructurer tout ça. On passera à la semaine de 4 jours. On va mettre en place un vrai plan de recrutement, de formation, de contrôle aussi des animateurs pour faire en sorte qu'on n'ait plus l'omerta qu'on a eu ces dernières années sur ce scandale qui a touché tant de familles et tant de petits-enfants.
Toutes ces mesures qui ont paru, c'est vrai, ces dernières semaines, assez inaudibles, pas nécessairement de votre fait, mais en tout cas dans le débat global sur ces élections à Paris. Et c'est vrai, cette question aussi, depuis le désistement de Sarah Knafo, vous avez toujours été clair, Benjamin Haddad, sur la non-compromission avec l'extrême droite. Aujourd'hui, vous dites que peut-être Rachida Dati risque d'être élue grâce à l'extrême droite.
Non, parce que fondamentalement, nous, regardez, on a été très clair dans cet entre-deux-tours. On a fait alliance avec Pierre-Yves Bournazel. On a fusionné notre liste avec Pierre-Yves Bournazel. Bon. Après, en revanche, en politique, moi je suis élu, on parle à tout le monde, mais tous les électeurs. On parle aux électeurs, tous les électeurs. Moi, je ne viens pas demander à un électeur. Quand je suis sur un marché, quand je fais du porte-à-porte, je ne lui demande pas sa carte d'électeur et je ne lui demande pas pour qui vous avez voté au premier tour, pour qui vous avez voté à l'élection précédente. Déjà, j'écoute et j'essaie de voir les préoccupations qui peuvent être des préoccupations sur la sécurité, qui peuvent être des préoccupations sur la propreté, sur l'attractivité économique. Et j'essaie d'y trouver des réponses pour pouvoir répondre tout simplement aux préoccupations et aux attentes des citoyens. Et donc, on sera élu par les voix des Parisiens qu'on sollicite. On parlera à toutes les Parisiennes et les Parisiennes pour avoir un projet, là aussi, qui justement, contrairement à ce qu'on a vu ces dernières années, ne dresse pas les gens les uns contre les autres. Ne dis pas qu'il y a les bons Parisiens, les mauvais Parisiens, qui ne cherchent pas à cliver, qui cherchent à rassembler pour apaiser cette ville et pour lui redonner, encore une fois, l'énergie et le rayonnement qu'elle mérite pour nous rendre fiers. Parce que cette ville, moi je suis Parisien, j'y suis très attaché, je suis élu ici, je sais le rayonnement qu'elle a pu avoir sur la scène internationale. Tout le monde voit bien que la vie se dégrade, tout le monde voit bien que la qualité de vie décline. Eh bien, nous, on veut pouvoir enrayer ce déclin et puis redonner du lustre et de la fierté à notre capitale.
Merci beaucoup Benjamin Haddad, ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères chargé de l'Europe. Vous étiez là ce matin en tant que colistier de Rachida Dati sur la liste Changer Paris. C'est la fin de cette édition. Merci. Sur RCG. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Passez une belle journée à l'écoute de notre antenne.